Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Amélie Oudéa Castérin.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Voilà votre titre en longueur. On va évidemment parler sport, on va parler politique et on va aussi parler sport et politique. Je voudrais d'abord commencer bien sûr par l'état d'esprit aussi des Bleus, parce que vous êtes une des dernières personnes à les avoir vus avant qu'ils ne partent au Qatar. Vous avez dîné avec les Bleus en début de semaine. Comment vont-ils ?
Moi, je les ai trouvés bien. Je les ai trouvés souriants. Je les ai trouvés unis, manifestement contents de se retrouver, concernés et concentrés.
Avec un peu des anecdotes. Vous avez dîné avec eux, c'était à Clairefontaine. On s'inquiète évidemment de la santé, notamment de Karim Benzema. Vous n'avez rien à nous dire là-dessus?
Non, je pense que les organismes sont très éprouvés. C'est la fin de saison, les championnats ont été extraordinairement exigeants. Donc il y a une fatigue des corps. Et d'ailleurs, toute la préparation de Didier Deschamps et de Guy Stéphane, son adjoint, elle est tournée sur l'optimisation de la récup des joueurs. Cette récupération, elle est absolument décisive. Et là, il faut que toutes les fibres se reconstituent, les énergies remontent. Ils dorment beaucoup, ils sont très attentifs à cette dimension-là. Et je suis sûre qu'ils seront maintenant, mardi soir, en pleine forme.
À se requinquer, vous dites organisme éprouvé, vous les trouvez un peu fatigués ou...
Non, on ne voit aucune fatigue quand
donc,
on leur parle.
Quand même ce matin.
La succession des blessures montre que les organismes tiraient beaucoup sur la machine. Donc, c'est l'un des effets de ce report à novembre. Et c'est important que là, toute l'attention soit portée sur maximiser ces moments de récupération, d'optimisation de la reconstitution de l'énergie.
On a envie de vibrer avec eux. C'est aussi pour ça que je vous demande comment ils vont. Parce qu'en fait, on en oublierait presque de penser à eux. On pense beaucoup Qatar. Et ça écrase un peu la question même de savoir si on va soutenir ou non nos joueurs. Vous irez au Qatar s'il y a des quarts de finale. On sait qu'Emmanuel Macron a dit qu'il irait s'il y a des demi-finales. Sans hésitation, ou est-ce que vous trouvez que tout ça a quand même bien encombré, y compris vous-même? Vous avez été obligé de vous poser tous sans cesse des questions.
Non, on ira sans hésitation et avec même de l'impatience, avec de la confiance dans le fait qu'ils atteindront ces stades-là de la compétition, qui sont des stades de la compétition où il y aura une énorme pression, un énorme enjeu. Et donc moi, j'ai hâte de pouvoir les retrouver. Je suis absolument confiante dans le fait qu'ils iront à ce stade de la compétition.
Et vous serez à la fois supportrice, ministre, évidemment. Je voudrais qu'on écoute quand même ce que dit Emmanuel Macron sur le sport et la politique, parce que c'est un peu ambigu quand même quand on sait votre rôle, le simple fait que vous soyez ministre des sports. Le sport est-il politique ?
Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Et que la question soit climatique ou qu'elle soit des droits de l'homme, il ne faut pas se les poser à chaque fois que l'événement est là. C'est au moment où on l'attribue qu'on doit se la poser.
Sincèrement, le sport n'est pas politique, il ne faudrait pas politiser le sport ?
Emmanuel Macron, il a toujours mis le sport au cœur de la cité. Il nous demande de travailler sur la place du sport à l'école. Et il est lui-même force d'impulsion sur des grandes, belles politiques publiques sportives, notamment en matière d'équipement de proximité, etc. Donc, il n'y a pas de doute sur le fait qu'on a l'ambition de mettre le sport au cœur de notre projet de société, au cœur de cette vie quotidienne des Français, c'est essentiel. Pour autant, quand on dit faut pas politiser le sport, c'est-à-dire faut pas laisser le sport otage des récupérations, des manipulations, des instrumentalisations à des fins de politique politicienne.
Mais c'est politique quand ça vous arrange et c'est pas politique quand ça vous arrange pas.
Non, mais je pense que dans le contexte, c'était vraiment les bons mots. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de préserver l'équipe de France des polémiques, de la laisser se concentrer sur le jeu. On a besoin que les 10 000 supporters français qui ont fait le choix d'aller au Qatar, ils puissent vivre leur passion pour le football sans les culpabiliser. Et on a aussi besoin de se centrer sur ce qui rassemble les peuples, sur ce qui peut être un facteur de paix, d'unité, de fédération, beaucoup plus que sur des polémiques politiciennes et qui n'ont souvent pas d'autre objectif que de combler une inaction qu'on a eue par le passé, de se réveiller un petit peu tard, y compris sur le choix de ces événements. Je pense que le président d'ailleurs l'a dit, c'est important de se poser la question des critères, des vertus des événements, des candidatures, au moment où ces candidatures se décident. 12 ans après, c'est compliqué et c'est ça qu'il a voulu exprimer.
Ce que vous voulez dire, c'est que maintenant que c'est au Qatar, bah, il faut faire avec, mais malgré tout, quand vous dites il vaut mieux être du côté de la paix, bah oui, mais est-ce que du côté de la paix, c'est pas justement faire en sorte qu'il n'y ait pas de persécution? Je pense par exemple à la question des homosexuels et des LGBT.
Écoutez, tant l'émir que les différents ministres, que en relais les autorités de la FIFA, ont dit que tout le monde serait le bienvenu au Qatar, quelle que soit son origine, son genre, son orientation sexuelle, sa religion. Donc, ce message-là, c'est celui sur lequel nous comptons de la manière la plus vigilante possible.
Quand le capitaine des Bleus est interrogé sur le fait de porter ou non un brassard arc-en-ciel, voilà ce qu'il répond.
Lorsqu'on est en France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent l'envie qui se prête à nos règles, qui respecte notre culture. Et j'en ferai de même lorsque j'irai au Qatar, tout simplement. Donc après, je peux être d'accord ou pas d'accord avec leurs idées, mais je dois montrer du respect par rapport à ça.
C'est une idée, l'homophobie ?
Non, on sait qu'aujourd'hui, le régime juridique en matière d'homosexualité n'est absolument pas satisfaisant au Qatar. Ce qui est important, je le redis, c'est le message de tolérance et la sécurité avec laquelle les personnes qui sont homosexuelles pourront se rendre comme tous les autres supporters au Qatar.
C'est pas pour faire une polémique que j'insiste sur ce point, mais ce qui me frappe quand même, c'est que quand on regarde les autres pays, il n'y aurait aucun pays qui le ferait. Mais les Pays-Bas, la Belgique, l'Angleterre, le Pays de Galles, la Suisse ont annoncé qu'ils porteraient ce brassard.
Oui.
Pourquoi la France ne le ferait pas ?
Là-dessus, bon, j'avais salué l'initiative de l'équipe de France de le faire lors des matchs de Ligue des Nations. Vous vous souvenez que Raphaël Varane puis Antoine Griezmann, les deux capitaines, l'avaient porté. J'avais trouvé que c'était bien, je l'avais dit. Les propos de Lloris, il faut quand même se souvenir que ça intervient dans un moment où la Fédération française de foot, par la voix de son président, donne quand même plus ou moins une consigne de ne pas le porter et où il pense que la FIFA va plutôt l'interdire. Et vous savez, dans les sportifs, il y a aussi un côté « je respecte les règles, je respecte le cadre ». Pour moi, ce qui est extrêmement important, c'est que nos Bleus soient engagés. Vous avez vu la lettre qu'ils ont écrite, dans laquelle ils sont sans ambiguïté
sur la
condamnation de toutes les formes de discrimination. Ils indiquent qu'ils soutiendront les ONG qui sont en soutien de l'ensemble des droits humains à travers le fonds Génération 2018.
C'est quoi ces ONG ? Vous savez qui c'est ces ONG ?
Ça peut être Amnesty, ça peut être Human Rights Watch.
Ça peut être, mais on ne sait pas si ce sera ça.
En octobre dernier, ils ont déjà amorcé leur effort de mobilisation de ce fonds Génération 2018. Et je retiens d'ailleurs que Lloris était l'un des principaux moteurs de la création, avec Varane d'ailleurs, de ce fonds. Donc, un Antoine Griezmann, à plusieurs reprises, s'est distingué par justement son soutien absolument à tous les supporters, toutes les personnes homosexuelles. C'est l'un de ceux qui a été le plus en verve sur ces sujets de lutte contre toutes les formes d'homophobie. Et maintenant, moi je l'ai toujours dit, les Bleus, ils sont libres de leur expression. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on ait senti leur engagement, le fait qu'ils étaient concernés par ce sujet et qu'eux-mêmes ont envie d'exprimer un message.
Je vous repose la question parce qu'il y a deux choses dans ce que vous venez de nous dire. À l'instant, vous venez de nous dire, ça intervient quand même dans un contexte où la Fédération française
s'apprête à
être... Est-ce que ça veut dire aussi qu'au fond, en fait, la question, elle n'aurait pas du temps à être posée à Hugo Lloris lui-même qu'à Noël Legret? C'est-à-dire, est-ce que la responsabilité de ne pas porter le brassard, je le rappelle, contrairement aux Pays-Bas, à la Belgique, à l'Angleterre, au Pays de Galles, à la Suisse, aux États-Unis, qui ont même changé leur logo pour que le drapeau LGBT soit carrément affiché partout?
Je pense que le sujet n'est pas fermé parce que la FIFA ne s'est pas prononcée. On pensait qu'elle l'interdirait il y a quelques jours. Pour l'instant, elle ne s'est pas prononcée. Elle a dit qu'elle le ferait en temps voulu. C'est maintenant imminent qu'il y ait cette décision. Et je sais, pour en avoir longuement parlé, tant avec Didier Deschamps, qui était à ma gauche au dîner à Clairefontaine, qu'avec Hugo Lloris, qui était à ma droite à ce dîner, on a beaucoup échangé sur ce thème-là. Et eux, ce qui est difficile, c'est qu'il y a ce côté, il y a des règles sur ce qu'on appelle le field of play, le terrain de jeu, qui s'impose. Et donc, c'est ce cadre-là auquel ils pensent. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est exploiter leur liberté d'expression, de parole, d'action, et en l'occurrence de financement, pour être absolument sans ambiguïté dans ce soutien aux droits humains, dans la lutte contre toutes les formes de discrimination.
Vous dites soutien aux droits humains, je vous repose la question, est-ce que vous connaissez le nom des ONG qui vont être, parce qu'en effet, ils ont dit on va s'engager dans des ONG, mais personne ne sait quelles ONG, qui va les choisir, est-ce que vous savez?
Il y en a plusieurs. Bah, typiquement, je pense qu'un Amnesty International a fait un travail très important.
Ça fera partie de ce fonds
autour de la situation du Qatar. Mais il y en a d'autres, il y en a plusieurs, j'en ai cité une autre. Voilà, ce choix leur appartiendra. On est dans un moment où, encore une fois, les règles de la FIFA vont se préciser. Moi, je leur fais confiance. Je pense que leur lettre portait les bons messages et que cette volonté de contribution financière, elle est aussi un signe, une preuve de leur engagement.
Amélie Oudéa Castéra, vous avez dit que vous aviez à votre droite, je crois, Didier Deschamps et à votre gauche, Hugo Lloris.
L'inverse.
Noël Le Graët, il était où?
Non, à la table. En face. Moi.
En face.
En face.
Vous avez échangé un peu avec lui?
Moi, je l'ai salué, je lui ai dit bonjour. Et puis, il a fait un petit speech au début, moi, un petit speech à la fin, et voilà.
Chacun dans son coin, quoi.
Bah oui, enfin, on n'était pas à proximité. Non, mais la situation...
On peut pas dire qu'il y a une folle proximité.
Écoutez, pour l'instant, voilà, moi, je suis au travail. Mes équipes, l'Inspection Générale du Sport, de l'Éducation de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, a lancé un audit. On est au travail pour regarder les modalités de pilotage de cette fédération, pour regarder aussi la façon dont elle s'empare d'un sujet comme celui des violences à caractère sexiste ou sexuel, où il faut absolument qu'elle fasse preuve d'une exemplarité à laquelle je l'ai vraiment appelée.
Et Noël Le Graët, qui était justement l'invité d'RMC, je voudrais que vous l'écoutiez, notamment sur la question de l'atmosphère qui réside au sein de la Fédération française et de la question aussi du sexisme et du rapport aux femmes.
Pour cette affaire, je vous regarde dans les yeux tous, moi j'ai rien fait.
Et vous n'avez jamais harcelé personne?
Personne.
Vous n'avez jamais envoyé de SMS déplacés à des collaboratrices?
Je ne sais même pas les écrire.
Alors, il ne sait pas écrire des SMS, dit-il, ce serait sa défense contre les enquêtes qui disent qu'il aurait envoyé des SMS très lourds. C'est le moins qu'on puisse dire. Venez dîner chez moi ce soir, je préfère les blondes. Donc, si ça vous dit, trois petits points, vous êtes drôlement bien roulé, je vous mettrai bien dans mon lit. Noël Le Graët qui dit non, ça ne peut pas être moi, je ne sais pas écrire des SMS.
Écoutez, moi, je n'ai pas interagi avec lui par SMS, donc je ne me prononcerai pas sur le sujet. Ce que je veux, c'est que cet audit aille au bout. J'ai été très claire sur le fait qu'il fallait un respect absolu de toutes les personnes, qu'il fallait non seulement libérer la parole, mais libérer l'écoute des victimes, des plaignants. J'ai pris ça extraordinairement au sérieux. J'ai tout de suite diligenté, dès les révélations de SoFoot, un audit là-dessus. Et nous regardons de manière approfondie. De la même façon, sur le domaine des violences à caractère sexiste et sexuel dans le foot, au niveau des territoires, dans différentes situations, on accélère la marche. Tous les cas qui ont pu être mentionnés ont fait l'objet d'un examen approfondi qui est en cours par les équipes et nous diligentons tout ce qu'il faut sur le plan des mesures administratives, l'analyse, les enquêtes, le signalement à la justice quand c'est nécessaire. Il faut que chacun prenne sa part. Il y a la justice, il y a le disciplinaire par les fédérations et il y a les mesures de police aussi administratives qui peuvent éloigner des fauteurs de troubles, des auteurs de ce type de violence absolument inacceptable de nos enfants, de nos jeunes, de nos pratiquants. C'est ça qui est important.
Ce qui est évident, et là pour le coup on le sent, hein, Amélie Oudéa Castéra, c'est que ces questions elles vous paraissent importantes, que vous heurtez quand même un peu à une difficulté qui est que ce Noël Le Graët et la FFF sont en face de vous, voilà, un monde auquel vous vous confrontez. Je sens quand même qu'il n'y a pas de soutien de votre part, qu'il y a une défiance, vous attendez. Est-ce que vous auriez aimé au minimum que le temps de cette enquête, il se mette en retrait?
Ce qu'il faut, c'est que cette fédération devienne exemplaire. Je reprends aujourd'hui le sujet des violences à caractère sexiste et sexuel. On voit que la proportion de signalements dans cette fédération n'est pas à la mesure de sa proportion en termes de licenciés, en termes de poids dans la pratique et dans le sport. Donc, il y a un effet retard. En même temps, elle a fait certaines choses bien. Elle est par exemple à l'origine de la mise en place d'un contrôle de l'honorabilité des éducateurs sportifs et des bénévoles. Donc, je pense qu'il faut faire preuve de discernement. Moi, mon message, c'est quand on est la première fédé de foot de France, qu'on a 2 millions de licenciés, qu'on a 15 000 clubs, il faut être exemplaire et c'est ça que j'attends de cette fédération et de ses dirigeants.
Vous attendez qu'ils deviennent exemplaires, le message est très clair. Madame la ministre, autre dossier bien sûr, les JO en 2024, comment on va faire justement pour des JO exemplaires ?
On a des engagements qui sont forts à différents niveaux. D'abord en matière écologique, avec l'engagement qu'on a pris par rapport aux Jeux de Londres de diviser par deux l'empreinte carbone, d'être même par une politique ambitieuse de compensation, d'être sur une neutralité au niveau du bilan carbone d'ensemble de cet événement. Donc on baisse de moitié les émissions. On compense, on soutient des projets de biodiversité en France, à l'étranger, pour être le plus possible à l'équilibre. En matière sociale, on a aussi là des clauses qui nous permettent de faire travailler des publics en insertion, un objectif de 2 millions d'heures de public pour faire travailler des publics en insertion sur les différents chantiers des Jeux Olympiques et paralympiques. On a également dans le choix des prestataires un engagement d'avoir 25% de TPE, de PME et de faire travailler des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire.
Avec l'inflation.
Les jeux paritaires aussi, ce sera les premiers jeux paritaires.
Ça veut dire quoi,
autant d'athlètes femmes que hommes pour la partie Jeux Olympiques. Et on veut, au global, à travers le fait qu'on a 95% des équipements temporaires ou déjà existants, le fait qu'il y ait une sobriété budgétaire autour de tout ça, on veut être sur un nouveau modèle de jeu qui soit beaucoup plus compact, beaucoup plus sobre au global.
Vous les trouvez comment, les mascottes ?
Je les trouve mignonnes.
C'est politique aussi de mettre un bonnet
coloré.
Frigien. Finalement, c'est quand même politique.
Ah, je pense que le bonnet phrygien, c'est plus que politique. C'est l'histoire et c'est l'ADN, c'est la culture de notre pays notamment.
Vous regrettez, j'imagine, qu'elle soit fabriquée principalement en Chine.
On va essayer d'avoir plus d'ambition sur une relocalisation de la production en France.
Encore, vous pensez ?
On est au travail là-dessus, on a des contacts avec l'ensemble des ministères. On va essayer de remonter cette proportion. Je retiens que d'ores et déjà, le volume de commandes et de production qui se fait en France a permis quand même de relocaliser en France, au niveau de l'une des deux entreprises prestataires, les deux sont françaises.
C'est pas figé.
Une cinquantaine d'emplois. On
ça
est au travail
pas figé. Quand
pour
ils disent
augmenter
80%
cette proportion de la production qui va se faire
okay.
En France
donc
ou en Europe.
On peut espérer que dans les semaines, les mois qui viennent, vous nous annonciez que finalement...
On est au travail pour cet objectif.
D'accord. C'est un objectif de réduire la part de ces mascottes qui seraient fabriquées en Chine. C'est ce que j'entends.
D'augmenter celles absolument qui seraient faites en France.
Augmenter celles qui seraient fabriquées en France. Amélie Oudéa-Castéra, la question de la sécurité aussi pour les JO. On en avait beaucoup parlé, bien sûr, après les violences autour du Stade de France. Est-ce que ça, vous avez vraiment le sentiment d'en avoir tiré les leçons et qu'il n'y aura pas de chaos ?
On en a tiré toutes les leçons. On a Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui est extraordinairement mobilisé sur cette question avec l'ensemble de ses services, des préfets, des directeurs qui pilotent la préparation de la dimension sécurité de nos Jeux avec énormément de précision aujourd'hui. Il y a plusieurs chantiers, il y a celui de la cérémonie d'ouverture, il y a la sécurisation du relais de la flamme, il y a la sécurisation des fan zones. Il a annoncé la mobilisation des moyens. Vous savez qu'on aura à peu près 30 000 forces de sécurité intérieure qui seront mobilisées en complément d'à peu près 25 000 agents de sécurité privée. Pour la cérémonie, côté forces de sécurité intérieure, ça va même monter jusqu'à 45 000. Et dans le cadre de la LOPNI qui est en discussion au Parlement, la création de nouvelles forces de gendarmerie, de police, de 11 unités de forces mobiles. Donc on est vraiment précisément mobilisé sur tout
ça. Sur cette question de sécurité. Un pronostic pour le match de mardi, France-Australie ?
France.
France, évidemment, mais combien ?
Non, voilà, on verra. Non, ce qui est sympa, moi, je me dis, il y a des bonnes ondes parce que c'était le même match que en début de parcours pour le Mondial en Russie en 2018, qui leur avait souri. Je sais que c'est difficile de gagner deux fois le titre de suite, mais il y a quand même des équipes, l'Italie, le Brésil, qui l'ont fait. Moi, je veux qu'ils aillent décrocher cette troisième étoile.
Et après Didier Deschamps, Zinedine Zidane.
Didier fait un travail formidable. Il est respecté par tous ses joueurs. Avec Guy Stéphane, c'est un duo d'exception. Didier, c'est un de ceux qui a pu gagner cette compétition à la fois en joueur, en coach, en capitaine, en sélectionneur. C'est une chance immense pour le foot français.
Donc vous n'avez pas envie de commencer dès maintenant à penser à la suite.
Je leur souhaite vraiment bonne chance. Ils vont nous faire rêver. On a besoin qu'ils nous donnent du bonheur.
Je vous pose des questions, mais
tous.
Vous répondez vos réponses. C'est compliqué. Non, mais je comprends. Mais bon, voilà. Vous n'avez pas envie de vous prononcer sur une décision d'Idiane, mais j'imagine quand même que c'est une question qui se pose, ou en tout cas qui vous a traversé la tête.
Il est super à la tâche avec son équipe, respecté par tous les joueurs. Il a une expérience exceptionnelle. On doit se réjouir avec un R majuscule de l'avoir avec nous à la tête de l'équipe.
Tout le monde se réjouit et tout le monde a envie de se réjouir encore davantage dans les semaines qui viennent. Amélie Oudéa-Castéra, merci d'être venue répondre à mes questions ce matin. Je rappelle que vous êtes la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Merci à vous.
Il est 8h52 sur RMC et BFM TV.